quelqu'un qui a compté quand même, qui compte dans l'histoire de l'Église quand même. C'est reconnu maintenant comme, je ne sais pas, un docteur de l'Église, mais...
Non, non.
Mais je veux dire, quelqu'un, un intellectuel qui a vraiment compté.
Non, mais ça, personne n'en a jamais douté.
Oui, non, non, mais je veux dire, oui...
Il n'est absolument pas un modèle, ni au plan théologique, ni surtout au plan spirituel. C'est le contraire du catholicisme, je ne dis pas.
Mais à l'époque, il me semble que Luther, ses thèses ont séduit beaucoup de prêtres.
Énormément.
De clergés catholiques.
Énormément.
Donc,
et de princes. Et de princes. Ah, mais c'est pas. Moi, je ne prétends pas avoir fait le tour de la question. Je vous ai simplement parlé des circonstances de sa rupture. Après, le contenu de sa théologie, je n'ai pas beaucoup abordé, en fait. Mais si la question c'est « Luther peut-il être un modèle pour le catholique aujourd'hui ?» La réponse est non, catégoriquement. À aucun niveau, sauf quelques éléments, comme toujours, tous les hérétiques ont des éléments de vrai. Par exemple, lire davantage la Sainte Écriture, c'est très important. C'est un élément qu'il faut prendre.
Oui, mais pendant longtemps, l'Église catholique n'a pas traduit la Bible en langue vulgaire, ce qu'a fait le protestantisme, et ouais. le clergé catholique ne voulait pas que les fidèles lisent la Bible en ayant peur qu'ils se trompent sur, sur l'interprétation, alors que les protestants l'ont toujours fait.
Oui, enfin, ils l'ont toujours fait, surtout parce que l'imprimerie a été inventée. Hein. Ils ont pas, eux-mêmes n'ont pas inventé grand-chose non plus, parce qu'ils n'ont pas eu le temps beaucoup de... Mais oui, c'est vrai, c'est ce que je vous dis. Personne n'est tout noir. Et l'intention de Luther, je ne la juge pas. Pas du tout. Pas du tout. Mais le fait est que si nous pouvons toujours retenir quelque chose d'une erreur ou d'une hérésie. Parce que s'il y a hérésie, si la personne... Hérésie, ça veut dire choix. Exclusif. Il choisit cet aspect de la foi au point de délaisser un autre. Ça veut dire qu'il y a un manque. Donc ce manque-là, ben, prenons-le pour nous. Effectivement, on ne lisait pas assez la Sainte Écriture. Soit, je crois que c'est vrai. On peut le dire.
Oui, quand vous allez dans les pays protestants, vous savez aussi bien que moi, dans plusieurs hôtels, vous avez une Bible sur la table.
Oui, oui. Tout à fait, mais très bien, mais encore faut-il qu'elle soit intégrale, qu'on ne nous flingue pas l'épître de Saint-Jacques au passage et qu'on n'explique pas que c'est la jeune fille a conçu Ecce Viru Concipiet qui est traduit, et voici que la jeune fille concevra. Parce que non, c'est une traduction qui n'est pas acceptable, c'est la Vierge concevra. Mais regardez une Bible, Isaïe 7,14. Si c'est la traduction, c'est la jeune fille concevra, ben vous avez une Bible protestante. Donc il y a quand même derrière, pas seulement une...
Une traduction de la Bible, il y en a eu 36, souvent, je ne dis pas qu'elles se contredisent, mais je veux dire, vous avez la Bible, il y a 36 textes de la Bible, vous savez aussi bien quoi, mieux que moi. Sur
Oui, mais enfin, sur ces points-là, précisément, la traduction exprime un élément de la foi de l'Église. On ne peut pas faire l'économie de ça. On peut pas. C'est comme si quelqu'un parlait de l'Eucharistie sans parler de transsubstantiation. Il refuse de parler de ça. Mais ça veut dire qu'il a un problème avec la théologie de l'Eucharistie.
Justement, les protestants en parlent de ça.
Non, ils ne parlent pas de transsubstantiation.
Non, mais de l'Eucharistie, de la transformation du pain, etc. Non. Mais je veux dire qu'ils ont une position pragmatique en disant finalement c'est quelque chose, quand il n'y a pas de transsubstantiation. C'est on refait quelque chose qui s'est passé pendant la scène, mais il n'y a pas de transformation dite entre parenthèses magique.
Oui, d'accord. On vous a déjà dit que vous étiez un bon avocat du diable. Je vous disais tout à l'heure que Luther avait parfois dit il y a des passages de la Sainte Écriture devant lesquels on passe en levant sa barrette. Et ceci est mon corps, c'est l'un des passages sur lesquels il a dit ça. Parce que si vraiment il prend la réalité, si nous prenons la réalité historique de ce qui s'est passé, eh bien il faut la prendre entière, on ne peut pas choisir. Parce que sinon c'est trop facile, chacun fait sa petite cuisine. Enfin, pardonnez-moi la trivialité de ce que je viens de dire, mais ceci est mon corps, ceci est mon sang, ce n'est pas une image. Quand notre Seigneur, en Jean 6, pendant 65 versets, il fait son discours sur le pain de vie, et ce n'est pas une invention catholique,
même la Bible protestante reprend ça, et il dit sept fois, ma chair est une vraie nourriture, mon sang est un vrai breuvage. Et qu'après 65 versets, les gens, 5000 personnes, qui venaient de bénéficier de la multiplication des pains, se retirent en disant, mais ça c'est trop difficile à admettre, sa chair, une nourriture, pas possible. Notre Seigneur les laisse tous partir. Il ne dit pas, c'était une manière de parler, les gars, on va s'expliquer. Non. Et il se tourne vers les apôtres, et vous alors, vous allez aussi m'abandonner. Et Saint-Pierre lui dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. Et notre Seigneur, à ce moment-là, le félicite, enfin, félicite son père d'avoir éclairé le Simon. Et c'est l'une des grandes professions de foi de Pierre. Donc, ceci n'est pas une interprétation catholique du passage de l'Écriture sainte en question. Ceci, c'est l'Écriture sainte elle-même. Comment se fait-il que ce que je dis, Luther ou je ne sais pas qui, ne peuvent pas le lire autant aussi bien que moi, mais vous pouvez lire vous-même, chers amis, je vous envoie encore, Saint Jean 6, complet, vous allez voir que c'est impressionnant, parce que notre Seigneur insiste sur cette vérité aberrante qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Et que tout le monde s'en va.
En fait, les protestants s'y trouvent le passage dans la Bible où notre Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc c'est symbolique. Et donc il y a plus ce passage de la Bible qui cite pour dire « Regardez, c'est symbolique ». Et puis le reste, où
je dis, il faut tout citer.
C'est bien mon sang, ou même c'est bien décrit en état dans la Bible, lui font tes choses. Comment est-ce qu'il nous donne son corps à manger,
c'est ça.
C'est la preuve que c'était réel. Mais ça, c'est comme humilité. Donc le protestantisme basé sur sola scriptura. Mais alors, quand ça contredit leur thèse, eh bien, c'est escamoté.
Apparemment. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en lisant la lettre, on ne peut pas ne pas conclure ce que l'Église enseigne. Et que certains éléments du protestantisme refusent, quoi. C'est ça que je voulais dire. Enfin, je ne vous fais pas découvrir grand-chose, monsieur l'avocat, je suppose. Avez-vous d'autres questions?
Pourquoi on a quand même un problème avec la figure de la Vierge Marie, de où vient le sang?
Pourquoi on a?
Oui, un problème à accepter que la Vierge Marie est la mère de Dieu.
Je crois que c'est pas tellement... parce que... il me semble que la difficulté, une difficulté que rencontre l'Église catholique les protestants par rapport à l'Église catholique à l'égard de la Sainte Vierge, c'est l'unicité de médiation pour le salut. Il n'y a qu'un médiateur pour être sauvé, c'est Jésus. Et comme saint Paul insiste là-dessus, hein, il n'y a qu'un médiateur, Jésus. Eh bien, Luther, je pense, en tout cas, la plupart des protestants considèrent qu'il faut prendre cette parole au pied de la lettre. Donc, le culte de la Sainte Vierge pose problème, le culte des saints et des anges pose problème, puisqu'il n'y a qu'un médiateur, il faut passer par Jésus. Je ne dis pas que tous les protestants pensent exactement ça, mais un bon nombre pensent qu'à partir de ce mot de saint Paul, qu'il n'y a qu'un seul médiateur, alors que l'Église catholique explique qu'il y a un seul médiateur de salut, oui, mais il y a des médiateurs d'intercession. On demande à la Sainte Vierge de demander à Jésus de nous sauver. Intercession. Ils font l'intermédiaire entre moi, vous et Jésus. On peut demander aux amis de Jésus de parler à Jésus en notre faveur. Médiation d'intercession. Alors l'Église catholique dit la médiation d'intercession existe et elle est très très bonne. C'est pourquoi nous prions Notre-Dame, Saint-Joseph et tout le cortège. Tandis que une bonne partie des protestants disent non, la médiation, c'est la médiation de salut, c'est tout. Donc c'est que Jésus. En ce sens, ils ont raison. Mais ça manque de nuance, quoi. Parce que, bon, d'accord. Après, il faut voir, seul le Christ nous sauve, c'est ça que ça veut dire. Mais ça, l'Église catholique n'a jamais rien dit d'autre. Mais elle dit, on peut demander à Notre-Dame ou à Saint-Joseph ou aux saints, aux anges, voilà, de faire l'intermédiaire pour que notre Seigneur nous donne davantage de grâce. Est-ce que j'ai répondu un peu à votre question?
Oui.
Un peu. C'est mieux que rien.
Justement, quand on dit que le Seigneur est le seul médiateur,
Oui.
Parce qu'il veut justement pas dire, en fait, que pour rentrer dans la Trinité, en fait, et le royaume des cieux, en fait, Jésus qui est la porte, en fait, il dit « je suis la porte ». Oui. C'est pas ça qu'il veut dire quand il dit qu'il est le seul médiateur, c'est que on rentre en Dieu uniquement par Jésus, en s'unissant à Jésus, en fait, en devenant que un avec Jésus.
Oui, je pense que c'est vrai ce que vous dites, mais je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Notre Seigneur est le Sauveur, c'est lui qui a versé son... Il n'y a que son sang qui pouvait nous sauver, et il nous a sauvés. Notre-Dame serait morte en croix qu'elle ne nous aurait pas sauvés. C'est vraiment peut-être plus restreint que vous avez une interprétation plus large, plus complète. Je crois que Saint Paul peut être interprété de manière personnellement plus modeste en disant mais seul le sang du Christ nous sauve. Le sang des saints ou la prière des saints ne nous sauve pas. Elle prie pour nous, Jésus. Je ne sais pas si ça répond un peu. Avez-vous d'autres questions? Oui. Bien fort.
Comment?
Après d'avoir publié, d'avoir imprimé la Bible, est-ce que ça a eu un impact dans la publication de la Bible?
Non, je pense qu'il s'en est. Ça a plutôt favorisé le protestantisme historiquement. Non pas parce que l'impression de la Bible est mauvaise, c'est bon, mais parce que historiquement, effectivement, il y avait, comme disait l'avocat tout à l'heure, il y avait des résistances du côté de l'Église catholique à la lecture de la Bible directe. Et donc, la diffusion de la Sainte Écriture en langue vernaculaire surtout, hein. Il faut distinguer l'écriture sainte en latin, puisque c'est elle qui fait au fond autorité, surtout en Occident, et celle qui est traduite en langue populaire des différents pays. Donc la diffusion de la sainte écriture en langue du peuple était crainte par l'Église catholique romaine, donc la multiplication de ces Bibles. Les protestants, Luther et les protestants l'ont beaucoup favorisé et ça a beaucoup servi leur thèse, oui. Bah, on peut se mettre à la place psychologiquement du chrétien qui a accès au texte saint grâce à ces gens protestants qui, eux, lui donnent le texte saint. C'est gratifiant. Donc on leur fait confiance. On a tendance à leur faire confiance. Ma conclusion serait que la vie spirituelle est d'abord l'œuvre de la grâce, même si celle-ci appelle indispensablement la collaboration de l'âme, bien sûr. Mais c'est d'abord l'œuvre de la grâce, et pas l'œuvre des efforts à la puissance de sa volonté. D'autre part, discerner les maux dont souffre l'Église à une période, est partiellement possible. Partiellement, chacun peut avoir, et Luther aussi, quelques idées plus ou moins complètes, mais toujours un peu partielles, des maux dont souffre l'Église. Appliquer des remèdes est aussi partiellement possible, dans le respect de l'ensemble du corps ecclésial, de peur de malmener par le remède d'autres parties de ce corps comme par un effet secondaire nocif. La potion qu'on administre ne doit pas transformer le voisin en crapaud, quoi. Ne doit pas nuire à une autre partie de l'Église. D'autre part, les crises de l'Église ont été nombreuses et aiguë. Les trois papes et toute cette partie de l'histoire montrent que Ecclesia semper reformanda, l'Église est à chaque moment à réformer, à s'améliorer. Mais il faut retenir de cela que l'Église romaine se réforme d'elle-même. Cette réforme vient, passe ou est approuvée au moins par le pape, comme dit le décret de condamnation de Luther, qui commence par ces mots « Decet Romanum Pontificem ». Il convient que le pontife romain tienne la barre du bateau.
tiennent la barre du bateau. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est ça que ça veut dire. Decet Romanum Pontificem. Et c'est plutôt ça que je voudrais mettre comme conclusion. La vie spirituelle, le discernement des mots est possible, mais l'administration des remèdes doit être faite en tenant compte de ne pas blesser le reste de l'Église. Les crises dans l'Église montrent que l'Église se réforme d'elle-même. Le concile de Trente, après Luther, va produire une réformation assez profonde et très, très, très fructueuse, mais longue, lente, c'est vrai. Et en tout cas, elle passe toujours, la réforme, par le pape. Decet Romanum Pontificem. Voilà. Merci de votre attention.